La mandoline par Georges Baume. Chapitre 1. Salva marchait sur la route blonde au bord du lac Léman que le matin d'avril bleuissait de lumière. Les bourgades étagées au penchant des coteaux, leurs chalets à pesantes toitures, leurs maisonnettes à galeries de bois, sous un vêtement de houblon et de vigne vierge. Aveugle depuis plus de 20 ans, Salva sentait, par la délicatesse de ses mains et de son visage, la splendeur souriante des vallons dans le décor des Alpes et du Jura. Droit, portant avec fierté sa vieillesse, il était parti de son hameau de Lorraine, un jour que l'incendie, en dévorant sa fortune, fit périr tous les siens, sa femme et ses enfants. Il était parti seul, n'emportant pour enchanter ses douleurs que la mandoline de sa fille, miraculeusement sauvée. Ah, ce trésor de mandoline ! En le caressant de ses mains tâtonnantes, il lui semblait toucher le front de ses enfants, ses meubles familiers, les murs de sa maison, et il se rappelait son hameau, dont il ne voulait plus fouler le sol, de crainte qu'une émotion trop forte ne rompît son cœur. Le bâton en main, la mandoline en bandoulière, il parcourut plusieurs communes. Le soir, ayant sans doute, à cause du soleil trop agréable à ses yeux clos, la nostalgie de sa Lorraine, il pressentit soudain qu'un malheur le menaçait. Car sur la route, au loin, il percevait des cris de malice et de brutalité. Pourtant, des mouettes se posaient sans crainte au-devant de ses pas et sur la berge lissaient leurs ailes. L'air s'imprégnait de la laine fraîche des glaciers qui, là-haut, dans l'azur troublé de pourpre, élevaient leurs casques de marbre. La route s'engagea, sinueuse, à travers des prairies. Salva eut une hésitation. Des enfants, dans un chantier de bois, jouaient à se balancer, à califourchon sur des planches. Lorsque l'un d'eux perdait l'équilibre et roulait parmi les copeaux, tous les autres poussaient des clameurs grossières. « Vous allez vous tuer !» leur dit Salva. « Tiens, un aveugle qui nous a vus! C'est drôle !» Ravis de pouvoir changer de jeu, ils descendirent de leur balancelle. « Vous avez tort de vous moquer d'un aveugle. Savez-vous ce que vous réserve le destin ?»« Tiens, il vient nous faire la morale !» Salva, pressentant le péril davantage, voulut éprouver quelle résistance il pouvait opposer aux injures. Dieu l'avait peut-être mis sur ce chemin de campagne afin qu'apportant en sa probité la tentation du mal aux enfants hardis, il leur infligeât un châtiment exemplaire. Ceux-ci, âgés de 12 à 15 ans, étaient blonds et gras, rustres familiers des bêtes. Pieds nus, la blouse ouverte, ils s'approchèrent de l'étranger qui s'était assis sur un tronc d'arbre et, son bâton entre les jambes, se tenait immobile. Ils regardèrent, en groupe compact, sa face hâlée sous le chapeau de paille, ses gros souliers poudreux et sa veste élimée. Ils s'avancèrent tellement qu'ils sentirent leur souffle sur sa barbe fauve. « Vous ne riez donc plus ?» leur dit-il. « Non !» Ils regardèrent la mandoline, que l'âge et les rayons du ciel avaient également enveloppée d'un hâle. Il leur faisait envie ce jouet, dont les cordes, comme les os au contact de la brise, vibrent au gré du cœur humain. « Que voulez-vous de moi ?» demanda l'aveugle. Le plus grand de la bande, un coureur de bois, se mit à rire en voyant l'homme remuer ses paupières. Et les autres, moins téméraires mais plus méchants, s'excitèrent au courage. « La guitare ! La guitare ! Nous voulons l'entendre ! Elle n'est point pour distraire les créatures impies que vous êtes, qui osent encore rire. « Hein ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Prenons-lui cet instrument qu'il a dû voler dans un château. » « Que bourdonnez-vous ensemble, démons ? Laissez-moi !» Ils s'écartèrent par feinte. Ils cherchaient soit des pierres sur la route, soit des bâtons dans le chantier. « J'ai mon couteau, » fit le plus grand, « qui va lui couper les ficelles de la guitare ?» Puis il éleva la voix. « Dis, mendiant, veux-tu nous jouer de ta musique ?»« Tu ne la comprendrais pas. »« Eh bien, toi, tu vas comprendre !» Il sauta sur les poutres, se glissa derrière le mendiant et crac, crac, en 2 coups de couteau, la guitare fut dérobée. Alors, s'en étant emparé, il courut au loin, sur le coteau, au pied d'un chêne, où ses camarades, qui vociféraient avec des jappements de chiens, coururent le rejoindre. Salva tremblait. Il leva la tête. comme si, dans le prodige de son malheur, la lumière eût été rendue à ses yeux, il parut regarder le coteau, les monts noirs du Jura, qui érigeaient vers sa Lorraine un mur infranchissable. On l'avait dépouillé de sa fortune, de son âme. Il n'y aurait désormais pour lui que la triste ténèbre où il allait errer seul en tendant la main, honte suprême. En quel lieu maudit était-il donc parvenu? En se dressant, il proféra de longues plaintes. « Fils de brigand, vous n'avez jamais vu pleurer vos parents, ni souffrir une bête? Rendez-moi mon trésor !» Il agitait ses bras, tout son corps suppliant. Et de voir son impuissance, son désarroi d'aveugle, les enfants au pied du chêne riaient. Tous rassemblés dans l'herbe, ils essayaient d'arracher une chanson à l'instrument du pauvre. Mais le plus grand, dans sa frayeur d'être privé du jouet qu'il avait conquis, voulut repousser ses camarades. Ceux-ci, se coalisant contre lui, le dépouillèrent à son tour du trésor merveilleux que Salva entendit parmi des clameurs roulées sur les pierres du coteau. Salva pleura, les mains sur la face, comme le jour de l'incendie. Puis, tout courbé, traînant son bâton, il monta vers le village. Chapitre 2. Presque à l'entrée de Rémy, une noce achevait son festin sous une treille de houblon. Peu d'invités, mais tout jeunes, d'aspect honnête et cossu. Une nappe blanche, des services de porcelaine, des chaises de jonc peinturlurées, et sur le sable fin, on sentait le frémissement des pieds alertes. Autour des vases de fleurs qui décoraient la table, les invités chantaient en chœur les chants de Rémy, en s'accompagnant avec leurs couteaux sur les verres de cristal. Les mariés, assis en face l'un de l'autre, se souriaient, heureux de la joie de leurs parents et de leurs proches. Lui, jeune, brun comme l'ombre douce des platanes, le front ouvert avec franchise, le buste orgueilleux de sa force. Elle, 20 ans et blonde, jolie de l'azur de ses yeux et de la rougeur de ses lèvres. Salva eut-il la sensation que ses paysans, épanouis par l'air de la fête, accueilleraient avec bonté sa peine? Il se présenta au seuil de la guinguette. Une servante déjà le chassait. Sans répondre, il demeura, dans l'espoir qu'à sa vue, les chants s'interromperaient. En effet, on se tut. Les visages radieux se tournèrent vers lui. « Passant, que cherchez-vous ? » lui dit le marié. « Je cherche des cœurs charitables qui comprennent ma peine. » La mariée, s'étant avancée vers le vieillard, le fit asseoir auprès d'elle. Il posa sur la table ses mains aux veines gonflées et, tandis qu'on lui demandait de quoi il avait crainte, il répondit « Je ne crains rien puisque je suis pauvre, mais il vient d'être commis envers le pauvre un véritable sacrilège. Des enfants au chantier de bois m'ont pris mon âme. »« Votre âme ?» Les convives se regardèrent, croyant que cet homme était fou. « Ne pensez pas que je radote, reprit-il. J'avais une mandoline qui était l'unique souvenir de mes biens et de mes enfants. » Elle me consolait en endormant mes douleurs présentes, en évoquant à la nuit de mes yeux le jardin de mon passé. Des enfants, tout à l'heure, après me l'avoir dérobé, l'ont brisé sur les pierres. Trop heureux serais-je si j'en pouvais recueillir les morceaux. Oh, les vilaines créatures ! Ils ne savent ce qu'ils font, je leur pardonne. Mais que deviendrai-je maintenant ? Je ne sais plus. J'étais venu vers vous afin de m'alléger un peu en racontant ma peine. Excusez-moi. » Il se levait, confus d'importuner la fête par ses larmes, lorsque la mariée le retint auprès d'elle. « Nous serions des mécréants, nous autres, si en ce jour béni, nous laissions passer un malheureux sans lui offrir au moins l'hospitalité. » Chacun souhaitait, en sa pitié, racheter par un don généreux, le maléfice des enfants du village. Un silence plein de mélancolie régna. Le vieillard, d'un geste timide, effleurait les bras de la mariée, ses épaules rondes, ses joues parfumées, de même qu'autrefois il caressait sa fille rieuse qui le conduisait par les chemins de la Lorraine. « Accepterez-vous, lui dit le jeune époux, une mandoline plus belle qui remplace la vôtre ? Plus belle, oui. Meilleure et qui la remplace ? Non. » « Et moi, dit l'épouse, si je chante pour vous sur la mandoline nouvelle ?»« Vous, oui, peut-être. Ma fille, savez-vous, me jouait toujours les mêmes musiques. Seulement ces choses me rajeunissaient parce que la voix de mon feu les accompagnait ou la voix de la Moselle dans les prés. Saurez-vous me rendre l'écho de mes enfants et de ma maison ? Le vieillard tremblait en tâtonnant sur la nappe comme pour retrouver entre ses doigts les doigts de sa fille. « Allons, dit le jeune époux, qu'on aille de suite chez le luthier, puis qu'on nous verse un vin pétillant de France. » Des bouteilles prudemment inclinées, le vin gris de la Moselle, en un murmure de ruisseau, s'écoula. Et chacun, d'un geste harmonieux, par-dessus les vases de porcelaine, leva son verre. « Nous buvons en votre honneur, hôte vénérable. Nous désirons que jamais pareil jour d'émotion ne vous surprenne. Ainsi, vous vous souviendrez de notre village et de nous-mêmes, et, nous unissant dans vos pensées à ceux que vous avez perdus, vous formerez pour nous, en vos bienfaits de pauvres, des vœux de joie et de santé. » Tous les convives, graves et presque recueillis, s'étaient mis debout. Ils observaient le vieillard qui demeurait paisible, ses paupières closes, sa barbe plus brillante à cause d'un rayon de soleil qui tombait de la treille. « Prenez mon verre, lui dit l'épouse, qu'il vous soit aussi agréable que la coupe des sources. » Il accepta sans hésitation et après qu'autour de lui les verres de cristal se furent entrechoqués, il parla au milieu du silence. « On ne doit jamais douter de Dieu. Je me croyais sur la route, devenu à jamais un objet de risée et de honte, et voilà qu'il me semble remonter dans le ciel d'autrefois. Soyez heureux tous. Je n'avais pas encore, dans mes voyages, entendu des voix plus accueillantes que les vôtres. Je n'avais pas rencontré des mains plus fraîches que celles de l'épouse, entre lesquelles la fortune aimera sûrement se poser, comme l'oiseau sur le plus tendre rameau d'une branche. » L'épouse riait, livrant ses mains légères au vieillard, qui n'osait les porter à ses lèvres. Il riait aussi quand la servante rentra, rouge d'avoir couru, pressée de faire oublier sa rudesse de tout à l'heure. « Voici la mandoline, dit l'épouse au vieillard anxieux. Permettez que je vous l'offre moi-même dès que j'en aurai joué. » « Oui, répondit-il. » Tandis qu'accoudé sur la table, il s'absorbait dans ses souvenirs, tous les convives regardaient, non sans appréhension, la mariée nouvelle qui, sous la feuillée, rayonna dans la blancheur de sa robe. Les yeux baissés, elle s'isola de même dans une songerie, revécut les heures de son adolescence auprès de sa mère et, pinçant les cordes souples, elle chanta. Elle chanta d'une voix pure, avec les meilleures forces de son cœur, comme à l'église. Il sembla qu'il y eût alentour, dans le soir bleu, plus de lumière. Elle chanta vers le passé mélodieux encore de ses illusions et de ses rêves, vers l'avenir tout proche qui luisait aux yeux de son âme telle qu'une maison souriante sur le coteau. Elle était plus belle, en extase, ignorant qu'elle chantait. Puis, dans un soupir, elle se tut, des larmes à ses paupières. L'aveugle avait pleuré aussi, doucement, sans le savoir. La voix des temps heureux l'avait appelé du profond de l'espace et tout frémissant de joie, il avait revu, par-delà les limites de la réalité, sa femme, ses enfants, là-haut, dans une Lorraine plus verte où coulait un fleuve plus argenté que la Moselle. Dès que le chant cessa, il y eut un silence de piété religieuse. Le vieillard tendit vers l'épouse ses mains durcies par le bâton de voyage et s'écria « Votre sincérité a fait le miracle que l'espérance me revienne. Je revivrai les temps heureux. Elle est à vous. Prenez. » La mandoline neuve, découpée simplement, présentait le galbe d'une amphore polie. Salva la prit sur ses genoux avec amour. Ensuite, l'ayant suspendue au ruban de ses épaules, il se leva. « Je ne veux plus vous faire languir avec mes misères. Adieu. » On le reconduisit sur la route. Il disparut à travers le village de Rémy, dans le soir violet, dont les brumes rampaient sur les coteaux, sur les montagnes, au firmament çà et là étoilé. La route se rapprochait de l'étang. Il sentit le frisson des eaux qui glissaient, sournoises, le long des berges, où les mouettes, avant de s'endormir, secouaient leurs ailes. Chapitre 3. Salva parcourut des plaines et des montagnes. Il jouait de la mandoline nouvelle, sans goût, hélas, sans espérance. Il jouait pour amuser les hommes, ses semblables, et les apitoyer sur sa détresse. La mandoline n'était plus entre ses mains, le trésor vivant qui ranime le cœur du pauvre. Les épaules courbées sous le poids de ses rêves, il marchait avec lassitude, sans lever au soleil son visage à la barbe d'apôtre. L'hiver lui plaisait, la saison des neiges, des vents tenaces qui tordent les arbres et font crier les toitures. Car il éprouvait, en un sentiment de rancune, la satisfaction de penser que des hommes souffraient aussi. Il allait au hasard, revenant inconsciemment au chemin déjà parcouru. C'est ainsi qu'en matin de juillet, à l'heure où bêtes et gens travaillent sur le coteau, il revint au village de Rémy. À sa droite s'exhalait la fraîcheur du lac immense, dont les mouettes fendaient le flot en battant des ailes. Le chemin pénétra parmi des jardins, au milieu des maisons peinturlurées, ornées de fleurs et de plantes. Penché sur le bâton fidèle, Salva songeait à sa Lorraine, vers laquelle, sans qu'il le soupçonnât, le destin le ramenait. Il avisa le long des murs, au milieu de la route, une marche de pierre, afin de se reposer. C'était une maison toute jeune, entourée de galeries de bois, éclairée de fenêtres à menus carreaux, qu'atteignaient presque les tiges grimpantes du houblon. La porte ouverte laissait deviner une intimité de sagesse laborieuse. Il eut, une seconde, la sensation de retrouver le sol de sa Lorraine. Il prit entre ses genoux la mandoline, avec la tentation de chanter pour lui-même, lorsqu'un pas timide apparut au-dessus de lui, sur l'escalier de bois. C'était l'épouse, la fée bienfaisante de l'an passé. Plus aisée dans ses manières, elle rayonnait de force et de grâce. Son corsage mauve, son petit tablier à ramages écarlates, toute sa personne enfin s'harmonisait avec la coquetterie des prés et des maisons d'alentour. Elle portait sur ses bras un enfant, blond et rose comme elle, dont le maillot gardait encore le parfum de l'eau pure et des lavandes. Le mendiant se détourna. Alors elle rougit de confusion en reconnaissant dans cet homme vieilli, accablé, couvert de poussière, le passant superbe du banquet de ses noces. « C'est vous ? » lui dit-elle. « Moi, est-ce que je suis connue ici ?»« Sans doute, vous ne vous rappelez pas ?» « Oh, pardon, vous ne pouvez pas savoir puisque vous êtes aveugle. Mais ma voix a donc changé ?»«
Je ne comprends pas. »
Elle descendit sur la route et, tandis qu'il se levait, avec la volonté farouche de fuir, elle l'arrêta. Au contact de la main généreuse qu'il avait caressée l'autre fois, il eut dans son être épuisé une douceur de vivre.
« Oui, s'écria-t-il, oui, j'ai souvenance. Ah, mon Dieu, le miracle !»
Il pressait avec effusion la main libre de la femme et, touchant le maillot, rencontrant les menottes grasses de l'enfant, il se mit à sourire dans sa barbe en désordre.
« Il est à vous, ce petit Jésus ?»«
Oui. »«
Alors, vous êtes heureuse ?»«
Oui.
Venez avec moi, je vous conduirai. »«
Non, non, répliqua-t-il, je souillerai de ma misère à votre maison, qui, peut-être, n'a pas encore abrité un seul vieillard. Laissez-moi. »
Et, triste, il s'appuya sur son bâton en branlant la tête.
« Vous ne chantez plus sur la mandoline ? Nous vous avions donné tant de courage. »
« Hélas, ce n'est plus ma mandoline, celle dont les sons chaque jour évoquaient pour moi le jardin du passé.
Le jour de mon mariage, quand je chantais, je me souviens que des larmes coulaient sur vos joues.
Je croyais que vous pouviez donner votre âme à l'instrument qui allait être le mien. » Mais vous n'avez pas le droit d'en priver votre foyer pour en donner une partie aux pauvres qui errent sur les routes. Adieu.
Restez encore, cela vous fera du bien. D'ailleurs, voici mon mari.
Celui-ci, d'abord stupéfait, s'avançait précipitamment. Il reconnut Salva et un sourire fut sur sa face rouge et pleine. Salva, lui ayant tendu ses mains, le félicita d'une voix paternelle.
« Vous venez du travail, car vous portez l'odeur de la terre. Qu'elle vous accorde la douceur de récolter ses fruits, longtemps après votre vieillesse, exempte de maux et d'infirmités. »
Le monde s'était rassemblé alentour, sur la route ombragée, où passait un troupeau de génisses. Salva se recueillit soudain. Dans un moment de silence, attentif à une rumeur de pas lointain, il murmura
« Je les entends !»«
Qui ?»
Ces petits malheureux qui me volèrent mon trésor. Ceux-ci arrivaient en bande joyeuse des champs où ils apprenaient à leur tour le travail. Et sachant cette année le prix de l'effort, ils se présentèrent, penauds et confus, devant le mendiant. « Je savais bien, leur dit-il, que vous brisiez mon âme en brisant la vieille guitare, qui pour vous n'était qu'un jouet. Prenez garde à vous plus tard. » Des hommes grondèrent avec ironie en haussant les épaules. Néanmoins, le plus grand des garçons, toujours résolu, parlait. N'ayant jamais créé, nous ne savions que détruire. Heureusement, par jalousie envers mes camarades, afin qu'ils n'eussent rien de la vieille mandoline, j'en ai enterré les morceaux au pied du chêne sur le coteau. Oh, va me les chercher, supplia le mendiant. Bientôt, il les tenait entre ses doigts avec une crainte pieuse, et les enfouissant dans son sac de toile, il rappelait tout bas sur ses lèvres les chansons d'autrefois. On le croyait fou de nouveau. « Adieu, dit-il, laissez-moi seulement embrasser ce petit Jésus qui n'a pas peur du pauvre puisqu'il ne pleure pas. » Ensuite, sans écouter aucune prière, il s'éloigna. À l'issue du village, il broncha contre une poutre dans le chantier. Le lac l'attirait avec ses ondes frémissantes comme le blé des plaines. Il s'assit sur la berge dans la solitude où des insectes bourdonnaient parmi l'herbe et le soleil. Là, sans hésitation, il ensevelit pour l'éternité dans le gouffre les morceaux sacrés de sa mandoline afin que l'eau les ranimât de sa plainte, de ses mots d'amour et de douleur qu'elle dit depuis des siècles sans que les hommes la comprennent. Et tout autour, sur le coteau, dans les jardins du village de Rémy, le chant des oiseaux, le murmure des haies, la voix du vent qui vient des Alpes, parurent, au cœur du mendiant, s'élever en un concert étrange, célébrant son sacrifice.